Voilà, nous poursuivons donc notre étude, notre série d'études sur Jésus l'unique. Lors de notre dernière étude, nous avons parlé de la résurrection du Christ. Et je veux maintenant, à partir de cet événement de la résurrection, rebondir sur un sujet qui concerne la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce qui va nous occuper pendant ces prochains mois, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des choses un peu délicates à considérer à cet endroit. Et je vous invite donc à lire un texte en introduction à notre étude d'aujourd'hui, mais nous évoquerons beaucoup de textes parce que c'est un sujet de synthèse. Dans l'épître de Paul aux Romains, nous lisons la présentation que fait Paul de l'Évangile et de Jésus-Christ. Romains 1, versets 1 à 7. Donc une lettre écrite, dit l'apôtre, de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part, pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes écritures. Il concerne son Fils, qui en tant qu'homme est né de la descendance de David, ou est devenu de la descendance de David. Et qui, du point de vue de l'Esprit de sainteté, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'ici, notre lecture. La résurrection de Jésus a été un événement décisif dans l'histoire du salut. Nous l'avons dit il y a un mois. Elle atteste l'intervention de Dieu dans cette histoire. Elle fait aussi de la mort de Jésus une victoire et une source de salut. Elle pose également les fondements d'une espérance et oriente la foi chrétienne vers l'attente de la pleine victoire sur le mal, sur toutes ses conséquences par le renouvellement de toutes choses. Mais la résurrection de Jésus est aussi décisive quant au regard qu'elle nous permet de porter sur Jésus. Elle manifeste qui est vraiment Jésus. Et elle donne un point de vue nouveau à partir duquel on peut considérer tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a manifesté. Et dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul le résume vraiment en disant « Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection ». À partir de la résurrection de Jésus, il faut considérer Jésus dans cette autre dimension de sa personne. Certes, il reste dans son humanité, issu de la descendance de David, nous dit Paul au verset 3. Mais désormais, on parle de Jésus-Christ, notre Seigneur, verset 4. C'est lui dont on attend la grâce et la paix au même titre que de Dieu le Père. Un changement donc de perspective. Les évangiles témoignent aussi d'une certaine façon de ce changement de perspective. Jean indique, par exemple, que lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, ses disciples se sont souvenus de certaines de ses paroles et les ont enfin comprises avec toutes leurs dimensions. Et Marc et Luc soulignent aussi que souvent quand Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection, ces choses étaient voilées pour les disciples. La résurrection fait éclater tout cela dans sa vraie lumière. Et c'est pourquoi donc, après avoir développé plusieurs études sur le ministère de Jésus, sur son enseignement, jusqu'à la résurrection, nous allons basculer maintenant sur un autre volet et nous interroger sur ce que la Bible nous enseigne de l'identité même de Jésus. Qui est-il ? Qui est-il à la lumière de son œuvre, de ce qu'il dit de lui-même à la lumière de la résurrection ? Cette question sur l'identité de Jésus, sur sa personne, est extrêmement importante. Elle pose aussi des questions redoutables Et on va être amené à se casser un peu les méninges quand même. Car il y a un mystère de la personne de Jésus. La foi chrétienne confesse que Jésus est pleinement Dieu et pleinement humain dans l'unité d'une personne. Comment scruter cette chose, cette réalité-là? Comment penser cela? La foi chrétienne confesse l'incarnation, le fait que Dieu lui-même s'est fait homme en la personne de Jésus. On l'a dit, on l'a chanté tout à l'heure ce matin, c'est au cœur de la foi chrétienne. Mais comment penser cela? Qu'est-ce que ça implique comme regard sur Dieu? Comment formuler ces choses-là pour autant qu'on peut le faire? C'est unique, cette idée de Dieu qui se fait homme. Et à bien des égards, c'est inscrutable. Cela renvoie aussi au mystère de Dieu que l'on découvre désormais comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. La profondeur de l'Évangile se dessine dans cet unique mystère. Si en Jésus, qui c'est vraiment Dieu qui se fait homme, comme on l'a chanté, c'est quelque chose de vertigineux. Vertigineux d'amour, vertigineux de grâce. Alors cette question de la personne de Jésus-Christ a suscité dans l'histoire d'énormes interrogations et d'énormes controverses, des divisions aussi. Et nous serons amenés aussi à discerner comment au fil de l'histoire il y a eu ces questions qui ont surgi concernant la personne de Christ. On arrive donc avec ce sujet à un nœud théologique très important. On touche vraiment ce qui fait de Jésus l'unique. Alors, on va avancer par petits pas. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à réfléchir à cette dimension divine du Christ. Et d'abord, quelle sera notre approche du mystère de Jésus et de sa personne? C'est un fait que dès la résurrection, suivie de l'ascension de Jésus au ciel, le rapport à Jésus change. On le voit dans les évangiles. Thomas, par exemple, qui avait douté, s'exclame devant le Christ ressuscité, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Et il l'adore comme Dieu. Pierre, à la Pentecôte, déclare à la foule réunie, « Sachez donc que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » L'ascension est lue très vite par les chrétiens à la lumière du psaume 110. C'était un psaume qui disait à l'avance l'élévation du Messie avec ces termes « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Jésus avait déjà cité ce texte face aux pharisiens pour leur dire que le Messie est plus grand que David. Si David l'appelle « mon Seigneur », le Seigneur a dit à mon Seigneur, le Messie n'est pas simplement le fils de David, disait Jésus, il est plus grand que David. Eh bien, ce mot Seigneur, désormais, on le voit attribué à Jésus systématiquement. Et dans les actes, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il est attribué autant à Dieu le Père qu'à Jésus-Christ. C'est le même mot qui est attribué l'un à l'autre. C'est aussi le Seigneur Jésus que l'on prie parfois. Pierre l'appelle le Seigneur de tous. Donc très vite, un changement radical dans la façon dont on conçoit Jésus désormais. Comment donc concevoir ce changement opéré par Jésus, par la résurrection? Avant la résurrection, on perçoit Jésus surtout comme un homme en qui Dieu agit puissamment. Maintenant, on le confesse comme Seigneur. Comment rendre compte donc de l'identité de Jésus et de ses deux aspects? Alors la question qui se pose, c'est d'où est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut partir de l'humanité en disant, finalement, on a là un homme, et se dire comment est-ce qu'à partir de l'humanité de cet homme, on en arrive à confesser sa divinité? Certains empruntent ce chemin. Et comme on part de l'humanité, on parle d'une christologie d'en bas. On parle de Jésus-Christ homme et on dit comment cet homme, on le confesse désormais comme Dieu. Christologie d'en bas. D'autres disent, c'est pas d'en bas qu'il faut partir, mais c'est d'en haut. Et partir du fait que le Christ est Dieu, et comment celui qui est Dieu s'est fait homme, et qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, ça pose la question. Et du coup, la résurrection vient manifester ce qui déjà était au départ. Donc c'est la question qui se pose, comment envisager ce changement de perspective, comment envisager ce rapport entre Jésus-Christ homme, Jésus-Christ Dieu. Christologie d'en bas, Christologie d'en haut. Parlons un petit peu de ces Christologies d'en bas, comment ça fonctionne. Pour les Christologies d'en bas, les confessions chrétiennes sur Jésus, confession de foi chrétienne qui le confesse comme Seigneur, sont le fruit d'un processus au cours duquel on a enrichi progressivement l'identité de Jésus. Il y a quelques années, un auteur qui s'appelle Gérard Messadier, qui est un journaliste écrivain, qui a écrit pas mal d'ouvrages historiques sur plusieurs, a écrit aussi un ouvrage sur Jésus. Et il lui a donné un titre qui est très significatif, très parlant, « L'homme qui devint Dieu ». L'homme qui devint Dieu. Et là, on a un schéma qui parle de l'affirmation qu'au départ, Jésus est un simple homme et que cet homme a été fait Dieu d'une certaine façon. Pour Messadier, Jésus a été fait Dieu par la croyance de ses disciples. C'est parce qu'on l'a cru Dieu d'une certaine façon qu'il a été fait Dieu. On a cru qu'il était ressuscité, du coup, on l'a fait Dieu. Mais c'est une simple projection de foi, projection de croyance sur Jésus. Dans son identité profonde, il n'était qu'un homme. Oui, ça c'est le genre de choses qui se dit à partir du moment où on part d'en bas. Alors on trouve des spécialistes qui argumentent beaucoup ces choses-là avec des ouvrages très, très savants et qui argumentent théologiquement aussi ce genre d'affirmation. Et on considère que ce n'est que tardivement qu'on a affirmé la préexistence divine du Christ. Et que cette affirmation est finalement le fruit d'un processus que l'on peut décrire quand on lit le Nouveau Testament. Un grand théologien, un grand exégète, mais qui a ce genre de position, qui s'appelle James Dunn, a écrit un ouvrage qui s'appelle « La Christologie dans son devenir »,« Christology in the making », dans son processus. Et si vous voulez, c'est une position où, bien sûr, on essaie de voir comment progressivement on a enrichi l'image de Jésus-Christ. Et quelqu'un comme Dunn, par exemple, dirait « Jésus lui-même ne s'est pas considéré comme le Fils de Dieu incarné, mais il s'est considéré comme quelqu'un qui était rempli par l'Esprit, qui était investi d'une mission divine. » Et c'est ça qu'il était vraiment, un homme rempli de l'Esprit, investi d'une mission divine. Il est mort pour nous, il est ressuscité, et c'est la résurrection qui donne à Jésus un statut nouveau, qu'il n'avait pas. Dieu l'a fait Seigneur. Et on attend son retour, mais son retour comme l'homme glorieux. Alors après, pour dire que cela c'était déjà dans le plan de Dieu, Paul dira, de toute éternité, le Christ était dans le plan de Dieu. Mais c'est pour dire ce que le Christ va faire plus tard, que l'on dit, déjà en Dieu, ça existait avant. Mais ça ne veut pas dire que Jésus préexistait avant. C'est dans le plan de Dieu que tout cela a été prévu. Et c'est que plus tard, avec l'Épître aux Hébreux et l'Évangile de Jean, qu'on a adopté un langage qui affirme que le Christ existait vraiment de toute éternité, qu'il est Dieu venu vers nous. Vous voyez là, on essaye, je dis ça très schématiquement, mais de partir de Jésus fait homme, qui était homme, manifestant beaucoup de présence de Dieu, d'esprit de Dieu, etc. La résurrection qui le fait accéder à un statut nouveau, et c'est seulement au terme de tout cela que l'on dit qu'il était Dieu. On a là un schéma où c'est l'homme qui devient Dieu d'une certaine façon. Et on ne parle pas de l'autre sens. Dans cette présentation, donc, on a vraiment ce type de schéma. Alors Dunn essaye quand même de justifier le langage du quatrième évangile, qui appelle Jésus Dieu, et il dit Jésus était un homme parfaitement modelé par Dieu. Il était parfaitement modelé par Dieu. Alors qu'on l'appelle Dieu, finalement, Dieu préexistant, Dieu venu vers nous, c'est si proche que ça fait pas vraiment de différence. On peut accepter ce langage du quatrième évangile. La difficulté, c'est que Il faut se rendre compte qu'il y a un abîme qualitatif entre dire un homme parfaitement modelé par Dieu, parfaitement selon Dieu, et quelqu'un et Dieu lui-même. Hein, entre un homme parfaitement modelé par Dieu et Dieu lui-même, il y a toute la différence entre l'homme et Dieu, entre la créature et le créateur. Hein. Alors, c'est pas juste un petit papier de cigarette entre les deux, c'est un abîme monumental entre les deux. Et il faut bien se rendre compte de ces choses-là. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une élaboration assez progressive de la christologie dans le Nouveau Testament, mais c'est beaucoup plus la réflexion sur Jésus qui s'est approfondie, qui a découvert des choses de plus en plus. Mais il ne s'agit pas de dire qu'on a plaqué sur Jésus des réalités qui n'étaient pas. Hein. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette réflexion est loin d'être linéaire. Dès le début, dès après la Pentecôte, dès après la résurrection de Jésus et son ascension, on a eu des paroles très fortes sur Jésus Seigneur. On n'a pas attendu la fin du premier siècle pour se dire oui, il est vraiment Seigneur. Donc ce schéma qui essaye de dire il y a une progression qui va jusqu'à la confession de la divinité de Christ, enfin au bout du terme, est un schéma qui ne correspond pas vraiment non plus à la séquence des faits et du développement de la compréhension de Jésus-Christ. Donc voilà, si vous voulez, pour ce schéma où on parle de l'homme, hein, Christologie d'en bas, l'homme qui devint Dieu, hein, d'une certaine façon, ça revient quand même à ça. En face de cela, l'autre perspective, c'est la vision qui parle de Dieu et qui permet alors de parler à propos de Jésus d'incarnation. Hein? Et c'est juste le fait simple de prononcer ce mot d'incarnation veut dire vraiment il y a quelqu'un qui a pris forme humaine, quelqu'un qui n'était pas homme et qui s'est fait homme. Hein? Donc ça, le simple terme d'incarnation évoque ces choses-là. Ces réalités telles que Jean les donne dans son évangile. Rappelez ce prologue qui dit « au commencement ». Était celui qui était la parole, c'est un titre qui est donné à Jésus. Hein. Le mot grec, c'est le mot logos, la parole, celui qui exprime la pensée, qui exprime la décision de Dieu, etc., qui exprime l'être de Dieu. Et donc au commencement était celui qui est la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons vu sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Dieu Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. Il est question vraiment de Dieu venu vers nous, de Dieu fait homme volontairement, de Dieu qui nous fait connaître Dieu. Alors on découvre là un mystère profond, magnifique, dans l'identité même de Jésus et un mouvement éblouissant dans sa venue. Dire que Dieu s'est fait homme, c'est dire tout autre chose que de parler d'un homme qui s'est élevé ou qui a été élevé à un rang divin. Et il est important de noter toute la distance entre ces deux approches. Alors j'aimerais maintenant donner après avoir discerné ces deux approches différentes et dont vous pouvez entendre parler ici ou là, hein, donner quelques repères historiques. J'ai dit tout à l'heure que la christologie, la compréhension de la personne de Jésus-Christ a été le lieu de nombreux débats au cours des siècles et jusqu'à aujourd'hui. Et je voudrais juste rappeler peut-être quelques repères et quelques écueils qui se sont retrouvés dans la manière de concevoir les choses. Alors, j'aurais voulu pouvoir vous mettre un petit PowerPoint avec quelques repères comme ça, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Alors d'abord, qu'affirme la foi chrétienne, qu'on appelle orthodoxe, si vous voulez, à propos de Jésus? Je vais vous citer juste quelques lignes d'un très bon ouvrage qui s'appelle « Pour une foi réfléchie », qui a été publié sous la direction d'Alain Nisius, que nous connaissons bien dans l'Église, professeur à la faculté de Vaux-sur-Seine. Et voilà comment on résume la conception chrétienne de Jésus-Christ. Les chrétiens ne voient pas seulement en Jésus un modèle de vertu, un homme exceptionnel, un prophète puissant, un faiseur de miracles hors du commun, un homme de Dieu rempli au plus haut point de l'Esprit Saint ou le Messie promis. Il le confesse comme Dieu fait homme. Voilà, c'est juste ce que je viens de vous dire tout à l'heure entre les deux approches. Pour eux, Jésus est vrai Dieu et vrai homme, totalement Dieu et totalement homme. Il est la deuxième personne de la Trinité, le Fils, le Verbe ou la Parole, venu dans la chair. En se faisant homme, en s'incarnant, le Fils n'a pas pour autant cessé d'être Dieu. Il est demeuré ce qu'il était. Il ne s'est pas dépouillé de sa divinité, mais il a ajouté à sa nature divine une nature humaine. Là, on résume comme cela la manière dont, dans la perspective chrétienne orthodoxe, on considère qui est Jésus. En face de cette conception orthodoxe de la personne de Jésus, il a fallu combattre un certain nombre d'erreurs ou d'hérésies. Et il est utile d'en mentionner certaines, parce que c'est éclairant pour situer les enjeux sur différentes questions. Alors je vais vous proposer une liste de cinq erreurs sur Jésus que je vais vous donner, si vous voulez, selon la place que l'on donne ou non à la préexistence de Jésus et à sa nature divine. Est-ce qu'on part du plus bas, où on ne donne pratiquement pas de place à la préexistence divine et à sa nature divine pour aller pour progressivement? Alors, un premier niveau, c'est un niveau où des gens ont dit « Jésus est un simple homme animé par l'Esprit de Dieu ». Un simple homme animé par l'Esprit de Dieu. Alors, historiquement, c'est quelque chose qui s'est développé par une secte judéo-chrétienne dès la fin du 1er siècle. C'est des gens qu'on appelait les ébionites. Ébionites, si vous entendez ce mot quelque part, c'est ce que ça veut dire. Et pour eux, Jésus était un homme de naissance absolument ordinaire. Fils de Marie et de Joseph, un homme ordinaire. Il a été choisi par Dieu comme prophète pour sa sagesse, pour sa piété. Au moment de son baptême, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. C'est ce qui explique son ministère, son enseignement, ses miracles. Et puis, l'Esprit de Dieu l'a quitté juste avant la crucifixion. Et c'est donc Jésus-Christ, homme seul, qui a souffert et qui a été ressuscité. Donc on parle d'une humanité avec la présence de l'Esprit de Dieu et encore sur une portion simplement de son ministère. Cette position a été tenue aussi au temps apostolique par quelqu'un à qui l'apôtre Jean s'est opposé. C'est quelqu'un qui s'appelait Sérinthe et on trouve en Asie mineure à Éphèse. Et on trouve des piques et des attaques dans la première épître de Jean contre ce Sérinthe et l'enseignement qu'il professait. Et Sérinthe distinguait, lui, non pas Jésus, homme et l'Esprit de Dieu, mais Jésus et le Christ. Et il disait, Jésus, c'est l'homme né comme tout homme, etc. Et le Christ, c'est le principe divin qui s'associait à ce Jésus-homme. Et pareil, Sérinthe disait, le Christ, ce principe divin, est descendu sur Jésus lors de son baptême et l'a quitté à la croix. Et c'est pourquoi, dans la première épître de Jean, vous avez une insistance. Il dit, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est un menteur. C'est à ça que fait allusion Jean, qui s'oppose. Celui qui nie que Jésus est le Christ, il y avait ce Sérinthe qui distinguait en disant ce principe célèbre, le Christ qui descend sur Jésus et qui ensuite s'en va. Et Jean dit, non, il faut les unir. Et celui qui nie que Jésus est le Christ est un menteur, et c'est même lui qui est l'antichrist, celui qui s'oppose à Christ. C'est d'ailleurs, ceux qui connaissent l'islam, la façon dont on parle aussi, d'une certaine façon, de Jésus dans l'islam. Donc, premier niveau, un simple homme animé par l'Esprit de Dieu. Deuxième niveau, Jésus est un homme qui, à un moment donné, a acquis le statut de fils de Dieu. Jésus est un simple homme qui, à un moment donné, acquiert le statut de fils de Dieu. On appelle ce courant l'adoptionnisme. L'adoptionnisme parce que Jésus acquiert le statut de fils. Cet homme acquiert le statut de fils de Dieu. À un moment ou à un autre, il a été adopté comme fils par Dieu. Alors, dans l'histoire, donc, le moment où l'on considère cette adoption diffère. Pour les uns, c'est lors de son baptême, lorsque le Père a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». D'autres disent que c'est lors de sa résurrection que le Christ a été adopté en quelque sorte, qu'il a acquis le statut de fils de Dieu alors qu'il n'était qu'un homme auparavant. Comment est-ce qu'on explique le changement, cette adoption en quelque sorte? On dit que pendant le temps, avant que Jésus ne soit adopté comme fils de Dieu, le Logos divin, donc Dieu lui-même, le Logos divin avait fait de Jésus son temple. Pendant tout le temps du ministère terrestre, Jésus était habité par le Logos divin, par le principe divin. Et pour récompenser la fidélité de Jésus, homme habité par le Logos divin, il y a un moment donné où on rend cette union indissoluble. En disant là, ils font un désormais, le Logos et l'homme Jésus. Et c'est ainsi que Jésus est fait Seigneur. Et donc, d'une certaine façon, on va décrire comme adoptionniste toute position qui fait ce saut en disant qu'à un moment donné, on passe d'un statut d'homme à un statut de fils de Dieu. Donc ça a été défendu dans l'histoire, cette position-là aussi, elle continue à être défendue. Ce que je vous ai dit sur Donne, par exemple, ce spécialiste contemporain, est une position adoptionniste, où on dit que finalement, ce Jésus qui était tellement formé, tout proche de Dieu, il reçoit le statut de fils de Dieu, d'une certaine façon. On n'est pas loin d'une position adoptionniste. Troisième niveau, pour dire les choses, on reconnaît que le Fils s'est incarné. Donc là, maintenant, on parle d'une certaine existence à Jésus, du Fils. On reconnaît que le Fils s'est incarné. Mais on considère que ce Fils incarné n'est pas éternel et qu'il est une créature de Dieu. Vous voyez, il y a un Fils qui s'incarne, mais ce Fils n'est pas éternel. Ce Fils est une créature de Dieu. C'est une position qui a eu cours dans l'Église chrétienne à partir du IVe siècle. Elle a été défendue par un homme qui était un prêtre de très grande piété et qui est d'une très grande éloquence aussi, quelqu'un qui s'appelait Arius. Et il y a eu d'immenses controverses qui se sont déroulées autour de cette question, de cette conception de Jésus comme le Fils incarné, mais un Fils qui est une créature de Dieu et qui n'est pas éternel. Ce qui s'est passé, c'est que c'était l'époque où la foi chrétienne était devenue religion d'État, avec l'empereur Constantin, et la sœur de Constantin, l'empereur, s'était convertie, avait adopté ces vues-là. Et son fils, le fils de Constantin, qui a pris la suite de Constantin, a aussi adopté ces positions-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a pensé que la foi chrétienne allait basculer dans cette conception-là des choses. Aujourd'hui, cette position est la doctrine qui est défendue par les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah disent qu'en effet, d'une certaine façon, Jésus est le fils qui s'est incarné, que ce fils qui s'est incarné n'est pas Dieu de toute éternité. Alors, Arius et les gens qui le suivent veulent défendre un monothéisme strict. Il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu est un. Et on dit, il y a peut-être un fils qui a été engendré, mais si on parle d'un engendrement, cet engendrement a eu lieu à un moment donné dans le temps. Ça veut dire, il y a eu un moment donné où le fils n'était pas, et ensuite il y a un moment où le fils engendré a existé. Mais s'il a été engendré à un moment dans le temps, ça veut dire qu'il a un statut inférieur à Dieu, qu'il n'est pas éternel, qu'il n'est pas Dieu comme Dieu. Et il est au rang des créatures, même si c'est une créature que l'on peut appeler presque quasi divine. Et dans la position de quelqu'un comme Arius, ce fils, il l'appelle le Logos, hein, pour reprendre le terme de Jean 1, ce fils, ce Logos, avait pris la place de l'esprit humain en Jésus. Hein. Et c'est donc à ce fils, à ce Logos qui était en Jésus, qu'il faut attribuer toutes les émotions, toutes les affections, toutes les souffrances que l'on voit chez Jésus. Et c'est, dit Arius, ce qui prouve très bien que le Logos n'est pas Dieu, parce que Dieu ne peut pas souffrir, Dieu ne peut pas connaître la faiblesse. Donc, vous voyez, tout ça se lit bien dans une conception comme celle d'Arius, et on a en Jésus une sorte de créature hybride, ni vraiment Dieu, ni vraiment homme. C'est un homme qui a plus son esprit humain, parce que c'est le Logos qui prend la place de l'esprit humain, mais en même temps, ce Logos qui est en lui n'est pas vraiment Dieu, puisque c'est un fils qui a été engendré à un moment donné, dans la vie de Dieu, par l'action de Dieu. Mais l'avantage, c'est que ça semble très logique. Il n'y a pas de mystère. On peut se dire, oui, l'être de Dieu n'est pas affecté. Dieu reste Dieu. Il peut créer une créature qui est quasi divine, mais ça ne met pas en question son être à lui. Et puis ensuite, on peut très bien expliquer que cette créature quasi divine vienne habiter un homme, etc. Donc voilà, l'arianisme, qui est aussi donc la conception des témoins de Jéhovah. Mais là, on parle du logos divin, on l'appelle divin avec D minuscule, mais on ne considère pas que Jésus est Dieu ou que le Fils est le Fils éternel qui est venu en la personne de Jésus. Quatrième niveau, si vous arrivez à suivre, on affirme qu'en effet, le Fils éternel s'est incarné. Donc ça, c'est une position plus récente du 19e siècle. Il dit « Jésus est le Fils éternel », on confesse bien cela. Donc il est le Fils éternel, mais en s'incarnant, il s'est vidé de tous ses attributs divins. Ce qui fait qu'au bout du compte, en Jésus, on a un homme à la dimension de l'homme, tout en ayant le Fils éternel incarné, mais il s'est vidé de ses attributs divins. On appelle cette position la « kénose », K-E-N-O-S-E, ou le kénotisme, c'est juste du verbe grec pour dire se vider, c'est le verbe kéno, hein, donc on entend kéno dans kénose, il s'est vidé de ses attributs divins. Ce texte s'appuie sur un texte biblique, dans Philippiens 2, verset 7. Il dit que, existant en forme de Dieu, le Christ, donc, préexistant en forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même, et c'est le même verbe qui est employé, kéno. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est vidé pour paraître comme un simple homme, pour prendre une condition de serviteur. Et on dit donc que, dans cette position, que le Fils éternel s'est dépouillé de tous les attributs divins qui étaient incompatibles avec l'humanité. Il s'est dépouillé de son omniscience, parce qu'on ne peut pas être à la fois homme limité dans sa connaissance et être Dieu omniscient. Il s'est dépouillé de son omniprésence. Il s'est dépouillé de son omnipotence, de son pouvoir absolu. Donc le Fils s'incarne, mais il perd un certain nombre de ses attributs divins. Et c'est le prix de l'incarnation. Alors ça semble là aussi concilier assez bien l'humanité et la divinité de Jésus. Hein, il est d'origine divine, mais la divinité en Jésus ne vient pas menacer les limites de l'humanité. Et ça semble tout à fait intéressant à concevoir, facile à comprendre. Seule difficulté, c'est que ça contredit le témoignage de l'Écriture. Paul dit en Colossiens 2, verset 9, « En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et si Paul avait pensé qu'il y a eu la kénose, que le Christ s'est vidé de sa divinité pour se faire véritablement homme, il n'aurait jamais dit « En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». Cinquième niveau, on reste toujours sur l'idée que de l'origine céleste du Christ. Le Christ est d'origine céleste, mais il est un être purement spirituel. Il est un être purement spirituel. Alors ça, ce n'est pas une position qui est défendue aujourd'hui, mais qui a été défendue autrefois, dans les premiers siècles, à l'époque où elle était très marquée par la philosophie grecque, où être spirituel, être un pur esprit, c'était vraiment le top du top. Avoir un corps, la matière, c'était vraiment assez bas, c'était le plus bas sur l'échelle des êtres, quoi, en quelque sorte. Donc dire Jésus pleinement spirituel, sans corps véritable, humain, c'était plutôt un bonus pour lui, dans cette perspective. Donc on dit, dans cette perspective, que Jésus n'a pas eu un corps réel, mais une apparence de corps humain, un peu comme le corps d'un fantôme. Et donc ça a été développé par un certain nombre de personnes au 1er siècle, qui refusaient l'idée que le spirituel puisse rentrer en contact avec le matériel. C'était pas du tout dans la conception des choses élevées, des plus élevées de l'époque. Et du coup, il a pris l'apparence d'une vraie humanité. Jésus est un être céleste qui a pris l'apparence seulement de la vraie humanité. C'est comme un peu Canada Dry avec ça, le goût de l'alcool, la couleur, etc., mais ça n'en est pas. Pareil pour l'humanité de Jésus, une humanité Canada Dry. Et donc, on a appelé ces gens les docètes, du mot, de nouveau, ça vient du grec, dokeo, le verbe, ça veut dire ce qui semble, une apparence. Donc, ce pour qui le corps de Jésus, l'humanité de Jésus n'est qu'une apparence. Et ces gens niaient la résurrection corporelle de Jésus en disant que la résurrection est purement spirituelle. D'autres attendaient d'une certaine façon pour Jésus un certain corps céleste, mais en tout cas pas un corps humain. Donc là, dans cette position, on affirme très fort la divinité, mais c'est cette fois-ci au détriment de l'humanité. Donc, vous voyez, je vous fais juste un petit brossage des positions. Ça montre que quand même la position orthodoxe qui dit Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme, a toujours dû s'affirmer en face d'autres manières de concevoir les choses. Et dont certaines de ces manières pouvaient sembler assez tentantes, parce que c'est beaucoup plus simple, c'est plus facile à comprendre. En même temps, ce qui est important pour nous, c'est de nous rappeler que le critère de notre conception des choses, de Jésus en particulier, n'est pas la facilité à comprendre, n'est pas non plus l'attrait intellectuel que peut avoir telle ou telle position, mais c'est vraiment de rendre compte du témoignage de l'Écriture, ce que dit la Bible, ce que Jésus a dit de lui-même, et d'en rendre compte à la fois dans ses grandes lignes et dans son détail. C'est le seul critère décisif. Nous sommes appelés à être témoins de Jésus-Christ, témoins de ce que l'Écriture nous dit, et donc il est important de bien rester dans cette position-là. Ceci dit, ce n'est pas si facile que ça, parfois, de comprendre tous les textes bibliques. Et je vais maintenant juste vous dire quelques mots sur le texte qu'on a lu tout à l'heure. Romains 1, verset 4. Parce qu'on va découvrir, en regardant ce texte d'un peu plus près, qu'il pourrait s'ouvrir à une conception que j'ai déclarée tout à l'heure comme n'étant pas véritablement acceptable. Et ça montre, j'ai pris le texte un petit peu à titre d'exemple, ça montre qu'il faut parfois être très très précis. Alors si vous voulez ouvrir votre Bible, Romains 1, versets 3 et 4, juste quelques mots sur ces deux versets. Je les relis, ensuite je ferai des petits commentaires de détail. L'Évangile concerne son Fils, qui en tant qu'homme, ou qui quant à la chair, est devenu de la descendance de David, mais qui, quant à l'Esprit éternel, a été déclaré ou institué Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vais d'abord m'arrêter au terme « il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance ». Le mot qui est employé ici veut dire plus que simplement « manifester ». Si Paul avait écrit « le Fils de Dieu Jésus a été manifesté Fils de Dieu avec puissance », c'est très facile, c'est-à-dire que la résurrection met en lumière simplement les choses. Mais ici, le mot qui est employé veut dire plus que manifester. Ça veut dire aussi établi dans une fonction, hein, déclaré, établi dans une fonction instituée. Il a été institué fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Et certains ont vu dans ce texte un argument pour prouver que Jésus est devenu par sa résurrection plus que ce qu'il était au départ, puisqu'il a été institué fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Et pour eux, c'est un argument en faveur de la position adoptionniste dont j'ai parlé tout à l'heure, où il est dit, à un moment donné, le Christ reçoit un statut qu'il n'avait pas forcément. Alors, question, est-ce que ce texte le permet ? Alors, il faut regarder de près les choses. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde de près le texte ? D'abord, première chose, c'est qu'on voit quand même que Paul parle de Jésus comme le Fils en tout premier lieu. C'est le tout premier titre qu'il donne à Jésus, hein. L'évangile concerne son fils qui, quant à la chair, est devenu de la naissance de David et qui, quant à l'esprit, a été institué fils de Dieu avec puissance. On parle de Jésus comme le fils avant de parler de sa naissance, quant à la chair, et avant de parler de sa résurrection. Autrement dit, ce titre appartient à son identité. Première chose qu'on peut noter. Deuxième chose alors qui est intéressante, mais ça il faut regarder dans le texte grec, lorsque l'on évoque l'humanité de Jésus, Paul a soin de souligner que cette humanité, le Christ l'a endossée, mais à partir d'une autre condition. Littéralement, il est dit, l'évangile concerne son fils qui, alors en tant qu'homme, alors pas, c'est pas tout à fait, est né de la descendance de David. Mais le mot que Paul emploie, c'est « est devenu de la naissance, de la descendance de David hein ». Le Christ qui, quant à son humanité, est devenu de la descendance de David. Ça suggère qu'il ne l'était pas initialement, qu'il vient d'une autre condition. Et ce texte et ce petit verbe-là ici est important pour dire que Paul considère qu'il y a vraiment une incarnation. Hein. Il a fallu que le Christ devienne quelque chose, mais il devienne quelque chose pour devenir homme. Et cela renvoie au fait qu'on l'avait déclaré comme fils avant. Donc cela suppose sa condition divine avant sa condition humaine. Ensuite, il y a ce parallèle entre les deux filiations. Hein. Il est, quant à la chair ou quant à son humanité, de la descendance de David, hein, et on souligne ça pour dire qu'il est la ligne dont on pouvait attendre le Messie, mais par sa résurrection, il a été établi fils de Dieu avec puissance. Alors, ce qu'il faut juste noter ici, c'est que Paul ne dit pas simplement il est de la descendance de David quant à sa chair, et il a été établi fils de Dieu quant à l'esprit. Il dit il a été établi fils de Dieu avec puissance. Autrement dit, le contraste n'est pas entre quelqu'un qui est simplement homme et qui devient fils de Dieu, mais c'est le fait que celui qui était fils, qui est devenu homme selon la chair, a été établi fils de Dieu avec puissance, c'est-à-dire fils de Dieu dans toute la possibilité, tout le rayonnement de ce qu'implique ce statut. Par tout ce qu'il a fait au travers de son œuvre, il est désormais fils de Dieu dans toute sa puissance. Donc ce n'est pas un statut nouveau qu'il reçoit en recevant le statut de fils de Dieu, mais c'est plutôt une manière dont il peut désormais vivre pleinement, exprimer qu'il est le fils de Dieu, riche de tout ce qu'il a fait dans son humanité, de toute son œuvre, il est désormais fils de Dieu avec puissance pour mettre en œuvre tout le plan de Dieu, etc. Vous voyez, quand on regarde dans le détail, on se rend compte que ce texte ne permet pas de dire que le Christ a été à un moment était qu'un homme qui ensuite a été adopté au statut de fils de Dieu, mais c'est autre chose qui est dit. Hein. C'est que celui qui était le fils, il est devenu homme, oui, selon la chair, et riche de tout ce qu'il a fait, de toute son œuvre, il a été institué fils de Dieu avec puissance, celui qui porte pleinement tout le projet de Dieu, projet de salut, etc., et qui le mène à son terme. Hein, donc voilà, je vais juste faire ce petit passage, ce petit détour pour montrer quand même qu'il y a des fois où il y a des choses qui sont quand même délicates. Hein. Hein, ce fait de dire il est devenu de la descendance de David, par exemple, ça éclaire qu'on considère qu'il était le fils avant. Hein, et ensuite de voir que c'est le statut de fils de Dieu avec puissance qui est en cause et non pas le statut de fils de Dieu. Donc parfois c'est un peu délicat et ce texte de Romains 1 nous permet de le comprendre. Alors maintenant, on va prendre quelques... Ouh là là, je me rends compte qu'il va falloir que je fasse attention au temps. On va essayer de prendre un temps pour examiner ensemble qu'est-ce qui permet de dire qu'en effet, le Christ est pleinement divin. Hein, c'est que ce point-là qu'on va considérer ensemble et c'est même pas dit qu'on arrivera à tout dire. Parler d'incarnation, c'est dire que c'est vraiment Dieu lui-même qui se fait homme et non pas un homme plus ou moins divinisé. Soit par les croyances humaines, soit parce que Dieu le divinise. L'incarnation est certainement donc l'une des vérités bibliques les plus inouïes quand on y pense, de dire que Dieu se fait homme, mais en même temps, elle est abondamment attestée. Et si on nie cela, on enlève une part importante du message biblique. Première chose que j'aimerais souligner, c'est que quand on parle d'incarnation, on dit que la vérité première concernant l'être de Jésus-Christ, est sa divinité. La vérité première concernant l'être de Jésus-Christ est sa divinité. Si on dit que le Christ est Dieu fait homme, ça veut dire qu'avant d'être homme, il est Dieu. Et c'est ce qui fait de lui l'unique. Ce n'est pas le fait qu'il soit homme qui fait de lui l'unique, mais c'est le fait qu'il est Dieu venu dans notre humanité. Et c'est ainsi qu'il est l'image du Dieu invisible, comme le dit Paul dans Colossiens 1, verset 15. Et qu'il est le seul qui peut dire « Celui qui m'a vu a vu le Père », Jean 14, verset 9. Donc, je crois que c'est bien important de penser cela. La divinité est première lorsque l'on pense à la personne de Jésus. En Jésus, c'est toujours Dieu qui vient. C'est Dieu qui se manifeste, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui triomphe. Et ce n'est pas parce qu'on a un homme habité par le Seigneur pleinement, mais parce que le Seigneur lui-même s'est abaissé dans la personne humaine de Jésus. Donc, si on parle d'incarnation, la divinité de Jésus est première. Elle l'est chronologiquement. Elle est aussi identitairement. Elle est aussi identitairement. Jésus, c'est Dieu qui vient tout en revêtant une vraie nature humaine. Le prologue de la première épître de Jean, cette fois-ci, est très intéressant parce qu'il est animé de cet esprit-là. 1 Jean 1, versets 1 à 3. Que dit l'apôtre ? Il dit « Ce qui était dès le commencement ». Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de Dieu, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous lui en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et qu'ici, on parle vraiment avec beaucoup de force de l'humanité de Jésus. Il dit ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu de nos yeux, ce qu'on a touché, tout ça. Bon, vraiment très concret, on ne nie pas du tout l'humanité de Jésus, au contraire, on l'affirme. Mais on dit cela, c'est quoi ? Cela concerne la parole de vie, la vie qui est venue vers nous dans cette forme-là. La vie qui a été manifestée, qui était auprès du Père et qui maintenant nous a été donné. Vous voyez, ça donne ce sens très particulier à l'humanité de Jésus, cet émerveillement devant l'humanité de Jésus. Elle est le lieu où se manifeste pleinement Dieu, la vie, tout ce qu'il est. Et on s'émerveille, comme on l'a fait en chantant, du fait que vraiment Dieu soit là. Donc c'est ce que j'entends par dire dans l'identité de Jésus, à partir du moment où on parle de l'incarnation, c'est la divinité qui est première. Ça ne nie pas son humanité, mais ça amène à voir dans cette humanité le fait que c'est Dieu qui s'est rendu présent. Et on n'oublie jamais. Alors, quels sont les textes ? Alors, comment est-ce que est affirmée la divinité de Jésus dans l'Écriture ? Alors, il y a plusieurs types d'attestations. Il y a des textes qui l'affirment, qui en parlent clairement. Il y a ensuite des titres divins qui sont donnés à Jésus, deuxièmement. Il y a ensuite des attributs divins qui sont donnés à Jésus. Il y a des œuvres divines que Jésus fait. Il y a des honneurs divins qui sont rendus à Jésus. Ouais, c'est les cinq types d'attestations, hein, des titres, des attributs divins, des œuvres divines, des honneurs divins. Texte, titre, attribut, œuvre, honneur. Alors, je pense qu'on va juste regarder les textes qui affirment. C'est ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Le texte le plus fameux qui affirme la divinité de Jésus, c'est le début de l'évangile selon Jean, le prologue de l'évangile de Jean. Cette ouverture de l'évangile nous parle du logos, hein, qu'on traduit « celui qui était la parole », parce que logos veut dire la parole, hein, c'est une désignation de Jésus. Il dit « le logos donc, a été fait chair ». Et pour dire qui est ce logos qui a été fait chair en la parole de Jésus-Christ, Jean remonte encore plus haut que la Genèse. Comment commence la Genèse ? La Genèse commence, Genèse 1:1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Et là, Jean commence en disant « Au commencement était le Logos. Et le Logos était avec Dieu. Et le Logos était tourné vers Dieu. » Il est dit après « Toutes choses ont été créées par lui. » Donc on est encore au-delà, encore avant la création du monde. On remonte à l'éternité avant la création. Et donc, Jean a cette double parole en disant « Le Logos était avec Dieu, et littéralement tourné vers Dieu, qui est une manière de dire une attitude relationnelle. Le Logos était tourné vers Dieu, et le Logos était Dieu. » Et en alliant les deux expressions, « était tourné vers Dieu, était Dieu », Jean a bien conscience qu'il est en train d'affirmer une différenciation au sein du Dieu unique. On peut parler de Dieu tourné vers Dieu. Il y a Dieu, Dieu est tourné vers Dieu. Dieu est relation, c'est quelque chose que l'on découvre de l'être même de Dieu dans cette double affirmation. La fin du prologue boucle un peu le schéma avec une autre expression. Jean 1, verset 18. « Personne n'a jamais vu Dieu, dit Jean, mais Dieu le Fils unique, ou le Dieu Fils unique, ou le Dieu seul engendré, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Il y a une expression qui est très intéressante et très dense aussi. Hein, « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Dieu Fils unique, ou littéralement c'est le Dieu seul engendré, le Dieu seul engendré, qui est dans le sein du Père, c'est-à-dire qui est dans l'intimité du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. » Alors c'est très très fort, ça rappelle que l'origine divine de Jésus-Christ fait en sorte que la connaissance qu'on a de Dieu est une connaissance qui vient de l'intime, du plus intime de Dieu lui-même, hein. Le Dieu Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui nous a fait connaître qui est Dieu, qui est le Père. Hein? Mais là aussi, on a une distinction qui existe en Dieu de toute éternité. Donc, on dit que Jésus-Christ est en effet Dieu venu vers nous, mais ça implique aussi de dire qu'il y a cette distinction entre Dieu et Dieu tourné vers Dieu, qui s'exprime pour ça, Dieu peut être tourné vers lui-même, et cette idée de Dieu seul engendré, hein, Dieu Fils unique. Alors je vais faire ici deux précisions un petit peu techniques concernant ces versets, après avoir donné juste le sens général. Alors les témoins de Jéhovah nient, je l'ai dit, que Jésus est Dieu. Et ils ont quand même ces versets, et ils essaient d'en rendre compte. Comment est-ce qu'ils en rendent compte? Alors pour Jean 1,1 qui dit « Au commencement était le Logos était avec Dieu, et le Logos était Dieu », ils disent, dans cette expression « la parole était Dieu », ils disent en fait « il n'y a pas l'article devant Dieu ». Il n'y a pas l'article. Et c'est vrai que quand on veut désigner en grec Dieu personnellement, on met l'article pour dire c'est vraiment Dieu lui-même, le Dieu unique, on dit le Dieu. Enfin, on met l'article défini devant Dieu. Hein. Et si on ne met pas l'article, ça peut signifier un Dieu, c'est plus indéfini. Et donc ils disent, il n'y a pas l'article. Donc quand Jean dit et le Logos était Dieu, il le dit sans article. Donc ça ne veut pas dire que, il ne veut pas dire que justement, il ne veut pas identifier ce Logos au vrai Dieu. Et c'est pour ça qu'ils disent, ils traduisent « la parole était Dieu », mais ils mettent « Dieu » avec un D minuscule, pour dire « c'est pas le vrai Dieu, parce qu'il n'y a pas l'article ». Et en gros, pour eux, ça veut dire que la parole était un être divin. Ce Dieu avec un D majuscule, ça veut dire un être divin, et pour eux, c'est un être divin qu'à un moment donné, auquel Dieu a donné naissance, et qui est quasi-Dieu, mais qui n'est pas vraiment, vraiment Dieu. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'article devant, dans le texte original, pour dire « la parole était Dieu hein, », le Logos était Dieu. Mais il y a une raison à cela, il ne faut pas se laisser embarquer par des gens qui vous balancent un argument comme ça. Il y a une raison pour cela, c'est qu'il s'agit de distinguer le sujet et l'attribut du sujet. Ça vous rappelle les connaissances, ça hein? En grammaire, il y a le sujet et l'attribut du sujet. Hein. Le Logos était Dieu. Le Logos est sujet, et là on met bien un article, le Logos, au Logos, était Dieu, ça c'est l'attribut du sujet. En grec, quand on a des termes comme ça, une expression comme ça, quand on veut dire ce qui est sujet et ce qui est attribut du sujet, on met l'article au sujet, et on ne met pas d'article à l'attribut du sujet. Et c'est la seule raison pour laquelle il n'y a pas d'article devant le mot Dieu, hein, quand il est dit le Logos était Dieu. Hein. Donc ce n'est pas du tout pour dire le Logos était un être divin de seconde zone, hein, mais c'est juste pour qu'on comprenne bien le sens de la phrase. Et Jean a eu d'autant plus la nécessité de faire cela qu'il avait inversé les choses. Alors si on veut rendre en français, il disait il était Dieu, le Logos. Il a inversé la proposition, il a mis d'abord l'attribut, ensuite le sujet. Il était Dieu, le Logos. Alors nous, en français, on est obligé de dire « il était Dieu, virgule, le Logos hein. ». Mais littéralement, c'est « Dieu était le Logos », si on le lit comme ça. Alors évidemment, en plus, comme il avait fait l'inversion des choses, on pouvait comprendre soit « Dieu était le Logos », sujet « Dieu était le Logos attribut », mais ce n'est pas ça ce qu'il voulait dire. Il voulait dire « il était Dieu, le Logos ». Donc pour bien faire comprendre ça, il avait d'autant plus la nécessité de ne pas mettre l'article pour qu'on comprenne que ce mot théos, Dieu, était un attribut. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, j'essaye de vous donner les choses, mais juste pour qu'on... Hein, il voulait vraiment dire qu'il était Dieu, ce Logos, et c'est pour ça qu'il exprime les choses de cette façon-là. Donc ne nous laissons pas embarquer par des gens qui nous disent « Oh là là, il n'y a pas d'article, ça veut dire qu'on ne considère pas que c'est vraiment Dieu. » Non, 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 ça ne tient pas du tout. Alors, deuxième élément que j'aimerais juste vous parler, dont je vais vous parler, c'est le verset 18. Quand il est question, il est dit « Donc personne n'a jamais vu Dieu, le Dieu seul engendré, littéralement, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Ici, il est question d'un engendrement du Fils. Un engendrement du Fils, le Dieu seul engendré. Et je crois qu'il faut, c'est une expression qu'il faut recueillir en tant que telle, et il ne faut pas concevoir cet engendrement du Fils comme quelque chose qui a eu lieu à un moment du temps, sur le mode avant-après. Ce n'est pas un engendrement du style « avant, il n'y avait pas de fils, après, on l'a engendré, et après, il y a un fils. » C'est pas de cette façon-là qu'il faut comprendre les choses. L'engendrement est une relation qui existe en Dieu de toute éternité et qui fait sa vie. De toute éternité, Dieu est Père et est Dieu qui engendre en lui-même celui qui est Fils. Et ça fait partie de la vie de Dieu depuis toujours et pour toujours. C'est la structure de l'être de Dieu, si je peux employer, on peut employer ce mot. Et s'il faut continuer, le schéma, et ce Père et ce Fils, dans leur amour, soufflent ensemble et se rejoignent dans l'Esprit. C'est la structure même de la vie de Dieu, la façon dont Dieu est, dont Dieu vit de toute éternité. Depuis toujours, c'est comme ça. Dieu est Père qui se retrouve dans le Fils et ensemble qui se retrouve dans l'Esprit. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est la vision trinitaire de Dieu qui est vraiment la conception chrétienne de Dieu. Donc, il faut dire que c'est une image, l'engendrement. Hein. On dit avec nos mots humains ce qu'on peut rendre compte de ce qui se passe en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait d'engendrer ? Engendrer, c'est donner tout ce qu'on a, tout ce qu'on est à quelqu'un. Et quand il est dit de toute éternité, le Père engendre le Fils, ça veut dire qu'il y a une communication de tout l'être de Dieu, du Père en celui qu'il voit comme son image et qu'il accueille comme son image. Et ensemble, tout cela se communique au Saint-Esprit. C'est un partage de tout ce que Dieu est qui se vit dans la relation. Et la vie de Dieu, la relation avec Dieu, telle qu'on peut essayer de la concevoir, c'est cette espèce de partage de tout ce que Dieu est, de tout ce que Dieu conçoit, de tout son être, toutes ses capacités, qui constamment est là, passant du Père au Fils, du Fils à l'Esprit. Et dans ce passage même, c'est ça ce qui constitue la différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une manière dont on pénètre dans le mystère de Dieu, et c'est quelque chose qui est apparu avec la personne de Jésus-Christ, et qui nous permet de comprendre que Dieu est relation. Hein. Relation et communication de tout ce qu'il est, partage dans l'unité, mais en même temps la diversité en Dieu. Alors j'espère que, juste, mais ce qu'il faut que vous arriviez un peu à saisir ce genre de choses-là, mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est quand on parle de l'engendrement du Fils, il ne faut pas comprendre qu'il y a eu un moment donné où il n'y avait pas de Fils, et ensuite à un moment donné, après coup, il y en a eu un. Parce que Dieu ne change pas. Il dit, il n'y a en Dieu ni changement, ni ombre de variation. Donc si vraiment Dieu est le Fils, qui est aussi Dieu seul engendré, ça ne s'est pas passé à un moment du temps. Sinon, il y aurait eu un changement vital, monumental en Dieu, à un moment ou à un autre. C'est de toute éternité, la façon dont Dieu vit, dont Dieu existe, dont Dieu est, dans son être le plus profond. Et c'est ainsi donc qu'il faut comprendre cette expression du Dieu seul engendré, une façon de dire que le Fils existe dans la communion du Père. Il y a ce Dieu qui est relation en lui-même et qui donc possède cette richesse qui permet de dire à la fois qu'il y a un seul Dieu, mais que ce Dieu peut être tourné vers lui-même, Dieu tourné vers Dieu. Hein, et le Logos est pleinement Dieu et il est Dieu tourné vers le Père. Il est le Fils qui vit dans l'intimité du Père. Vous voyez, cette relation qui existe en Dieu. Et qu'est-ce qui fait que Dieu puisse être aussi relationnel avec nous et nous avoir créé nous comme être relationnel? C'est parce que la relation, il la possède dans le plus intime de son être, dans la richesse même de son être. Alors ça, c'est ce à quoi nous amènent ces termes-là, qui nous dit vraiment qu'il y a cette distinction en Dieu. Et quand on parle donc de Jésus-Christ et de la divinité de Jésus-Christ, c'est ce Logos, c'est le Fils éternel qui s'est incarné et qui s'est uni à l'humanité de Jésus. Alors, on va s'arrêter là. Il y a d'autres textes qui nous parlent de Jésus-Christ, de sa divinité, mais on est bon pour aujourd'hui. Et donc, je voulais juste commencer cela en suggérant ces premiers éléments. Mais ça nous montre aussi que quand on parle de la personne de Christ et de sa divinité, c'est quelque chose qui nous renvoie aussi à la conception de Dieu lui-même. Hein. Et dans les premiers siècles de l'Église, justement, les premiers éléments de controverse, Ça a été justement parce que ça venait heurter la conception d'un Dieu unique, de monolithe, un Dieu unité pure, hein, de découvrir en Jésus-Christ que Dieu est ce Dieu relationnel et de réussir à trouver aussi un peu les mots pour le dire. Voilà où on en est. Vous voyez qu'on aborde quand même là les questions de théologie un peu dures, hein, un peu fondamentales. Et j'espère que je ne vous ai pas trop largué avec tout ça, que vous avez pu comprendre. Alors, s'il y avait une question éventuellement, je...